si t'étais si intelligente, ça se verrait. T'aurais mieux réussi.
Tu changes tout le temps de poste, t'es vraiment une girouette.
Non mais c'est pas possible de pleurer tout le temps comme ça, même devant les dessins animés.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue sur les atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Laurence. On a entendu quelques phrases avant le début. Déjà, merci d'être là. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ces phrases que tu m'as données te parlent particulièrement et en quoi tu es une atypique du cerveau ?
Ces phrases me parlent beaucoup parce que ça m'a beaucoup embêtée quand j'étais jeune, d'avoir ce sentiment toujours d'être en décalage par rapport aux autres, à la fois sur mon hypersensibilité et puis sur mon côté HPI que j'ai découvert très tardivement. J'avais 38 ans. Donc ça représente ce qui me dérangeait avant que je me rende compte qu'en fait c'est une force et c'est ça qui me permet de me connecter au monde et c'est ça qui me permet d'être aujourd'hui épanouie dans mon job, dans toutes mes activités et de me nourrir en fait, de nourrir mes besoins fondamentaux.
Super, mais tu vas nous en dire un peu plus d'ailleurs sur ton job. Tu me disais que tu l'as découvert un peu tard, à 38 ans. Et comment justement tu l'as vécu, ou comment ton entourage aussi a vécu cette, alors je sais pas si on peut dire révélation, mais en tout cas cette nouveauté.
Ça a été suite à une période difficile au travail où j'étais complètement en décalage, je me sentais complètement inadaptée. Et pas à ma place, j'étais pas nourrie dans mon travail et j'ai commencé à avoir un peu des dépressions peut-être, des symptômes physiques avec, je me souviens, un très gros mal de dos. Puis quelques semaines après, une impossibilité de me lever et tout a commencé par ce corps qui me parlait et par une phase où il a fallu que je commence à écouter mon corps et qu'est-ce qu'il avait à me dire, que ça avait trop duré, que j'avais un peu trop tiré sur la corde et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires qui m'ont fait prendre conscience que mon fonctionnement était un peu en décalage effectivement par rapport à la norme, en particulier une psychiatre qui m'a permis d'observer aussi ce qui se passait et qui m'a forcé entre guillemets à faire un diagnostic HPI. Alors j'y croyais pas du tout. Je me disais cette petite phrase, non mais si t'étais si intelligente, ça se saurait quoi, t'aurais mieux réussi que ça. Suite à cette identification de potentiel, j'ai compris que je fonctionnais différemment, que j'avais des besoins différents et que je pouvais surtout utiliser mes capacités différemment. Mon entourage, je pense que j'ai pas su correctement expliquer aussi parce que je ne savais pas. Enfin, j'ai découvert.
Oui, c'était nouveau pour toi aussi, donc ça fait beaucoup.
Voilà, je ne l'ai pas beaucoup partagé sur le moment. Voilà, j'ai essayé de trouver des personnes qui me ressemblaient, qui ressentaient le même décalage. Je suis tombée aussi sur un livre qui m'a beaucoup marquée, qui est le livre de Saverio Tomasella.
Sur l'hypersensibilité.
Sur l'hypersensibilité, où j'ai découvert que j'étais hypersensible. Et j'ai compris, suite à ça, mais pourquoi est-ce que le bruit, les odeurs et ce côté hyper-émotivité me gênait très souvent. Mais grâce à ce livre, j'ai aussi compris comment je pouvais en faire une force et comment je pouvais m'en servir dans mon travail.
Justement, le travail, tu l'évoquais à demi-mot tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ou pas de le savoir ? Est-ce que même sans le savoir, de toute façon, en termes de comportement ou de rapport au travail, ça t'a donné une différence selon toi ?
Complètement, puisque j'ai travaillé sur mes forces, en fait, mes ressources. Quelles étaient mes ressources ? Je me suis complètement réorientée aussi. J'ai voulu être coach professionnelle, donc je me suis inscrite à une formation pour être coach professionnel individuel et collectif qui m'a ouvert les yeux sur mes ressources, sur le fait que mon hypersensibilité pouvait être utile pour me connecter aux gens, pour mieux comprendre le monde, pour vibrer en fait avec ce qui m'entourait, pour découvrir mes talents aussi parce que et mes besoins. Avant, parce que ce qui est intéressant dans une formation de coaching, c'est que en fait on le fait pour accompagner d'autres personnes, mais dans cette démarche
il y a un chemin aussi.
Il y a un chemin personnel à suivre. Donc on teste tous les protocoles d'abord sur soi et sur ses collègues de formation, et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a appris mes fonctionnements, ça m'a permis de découvrir l'envers du décor et justement ce avec quoi, enfin le trésor sur lequel je pouvais m'appuyer pour aller pour changer ma façon de voir le monde et de ma façon de travailler, ma façon d'accompagner les personnes. Et donc suite à cette formation, je me suis complètement réorientée vers un travail qui était dans l'accompagnement de l'autre, l'accompagnement des équipes, l'accompagnement de collectifs, en essayant de voir quels étaient leurs propres modes de fonctionnement et comment moi je pouvais leur apporter un œil extérieur pour qu'ils travaillent mieux ensemble, qu'ils soient en synergie, qu'ils soient en complémentarité, qu'ils soient plus ouverts aussi, qu'ils soient conscients de leur posture et de leur façon de communiquer. Donc voilà, ça m'a ouvert un champ.
Donc le super pouvoir du décalage, on va dire,
c'est ça,
finalement.
C'est ça.
Tu ne nous as pas trop dit où tu travailles, je ne sais pas si tu veux en préciser, mais en tout cas, je sais que tu as monté un réseau de diversité cognitive au sein de ton entreprise. Pourquoi, déjà? Et quel est ton avis sur ce sujet-là?
Alors, mon avis, c'est que, en fait, pourquoi j'ai créé ce réseau? Alors déjà, j'en ai eu l'opportunité. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était mon mentor, en fait, dans l'entreprise. J'ai eu la chance de tomber avec cette personne par inadvertance ou pas. Et nous avons décidé de continuer l'aventure du mentorat avec la création de ce réseau, cette communauté, qui est un réseau qui est accessible sur le réseau social d'entreprise, qui s'appelle Douance et Zébritude. Pourquoi ? Pour faire connaître la diversité cognitive, pour bien comprendre ce que c'est et comment ça peut effectivement être une force pour les gens et pour l'entreprise. Comment ça peut être un levier de performance pour l'entreprise ? Comment, si les personnes découvrent qu'elles ont un fonctionnement différent, comment est-ce qu'elles pourront mieux le vivre ? Donc déjà dans leur vie personnelle, avec leur famille, avec leurs enfants, parce que parfois ça touche aussi les enfants. Souvent ça touche les enfants. Avant d'être adultes, ils sont enfants, forcément.
On est tous de grands enfants.
C'est ça. Et surtout, comment est-ce que si on incluait cette diversité cognitive, on pourrait répondre aux enjeux de demain ? Think out of the box. Puisqu'on est dans un monde, comme on dit, VUCA. Et du coup, on a besoin de penser différemment. Et c'est pour ça que je... Alors, c'est peut-être une croyance, hein. J'ai l'intime conviction que des personnes différentes peuvent trouver des solutions différentes aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on pourra continuer à travailler ensemble et à vivre, en fait. À vivre ensemble.
Et concrètement, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette communauté ?
Alors, c'est une communauté qu'on a créée au mois de janvier cette année. Donc là, on a mois, c'est très récent. Alors, on organise déjà des cafés Teams pour les... Alors, c'est une communauté qui est sur le réseau social d'entreprise où on communique régulièrement. Moi ou n'importe qui, en fait. N'importe qui peut proposer des articles, des conférences, des choses qu'ils ont vues, poser des questions, etc. Et les personnes vont s'abonner à cette communauté. Et donc, on organise différents événements. Environ une fois par mois, on organise un café Teams où on propose aux gens... Alors, au départ, c'était de se retrouver autour de la problématique de la diversité cognitive. Et puis là, nous avons évolué depuis le mois de septembre, où on a invité des personnes, des personnalités.
Carrément.
Carrément. Donc avec toi,
c'était moi, d'accord.
C'était toi la première. Et donc, on invite des personnes extérieures à l'entreprise pour qu'elles viennent nous parler de leur expérience. Donc ça peut être soit une expérience de création de réseau ou de création de podcast.
Je sais pas de qui tu veux parler.
Non. Ou par exemple des connaissances extérieures sur l'hypersensibilité, le TDAH, n'importe quel sujet qui soit en lien avec la diversité cognitive. Donc ça permet aux personnes d'avoir déjà de savoir de quoi on parle, et aux personnes qui assistent à ces cafés Teams, de savoir de quoi on parle et de poser leurs questions. C'est un moment un peu rencontre avec une personne, une personnalité du domaine. Donc ça, c'est assez apprécié, hein, puisqu'on on a à peu près entre 40 et 50 inscrits pour chaque café Teams aujourd'hui.
Oui, c'est beaucoup. J'ai revu le sujet et la communauté qui est relativement jeune, ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt
Il y a un intérêt pour le sujet. On est à peu près à 380, je crois, abonnés aujourd'hui sur cette communauté Douance et Zébritude. Donc c'est vrai que ça a très vite pris, parce que je pense qu'il y a un réel intérêt pour les personnes de parler de diversité cognitive et de l'inclusion de la diversité cognitive en entreprise.
Mais un intérêt pour les personnes concernées ou plus globalement, enfin, selon ton avis. Alors, ou ce que tu as pu noter
Nous on a orienté la communauté autour à la fois des personnes qui sont impliquées dans la diversité cognitive. Donc les personnes impliquées, c'est les personnes qui sont directement impliquées, donc qui sont soit hypersensibles, soit HPI, soit qui ont un trouble Asperger. Les personnes qui sont concernées, donc soit parce qu'elles sont managers de personnes qui sont dans cette diversité cognitive, ou des parents d'enfants de la diversité cognitive. Donc on touche assez large. Et la troisième cible de notre communauté, c'est les personnes qui sont intéressées par le sujet. Donc c'est très ouvert en fait.
Oui, donc ça peut être tout le monde quoi.
Globalement,
normalement,
tout le monde,
voilà. C'est ça. Potentiellement tout le monde peut être intéressé.
Voilà. Donc vu que je travaille dans un grand groupe, potentiellement il pourrait y avoir 220 000 personnes qui seraient très intéressées par le sujet.
Ben, merci beaucoup Laurence. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais partager? Je ne sais pas, peut-être un conseil pour des personnes qui écoutent, qui se posent des questions, ou leur entourage. Je sais que tu m'avais parlé du principe d'être un slasher, une slasheuse. Mmh. C'est quelque chose qui toi t'as beaucoup parlé.
Ouais.
Je sais pas si t'as d'autres conseils peut-être.
Alors moi c'est le côté vraiment le retour aux sources, connaître ses propres besoins, ses propres ressources, pour essayer d'orienter sa vie vers ce qui nous convient. Bon, c'est très empirique hein, ce que je dis, parce que
c'est le fameux connais-toi toi-même.
Voilà,
c'est pas si facile parfois.
Voilà, donc il y a tout un travail de connaissance de soi, d'acceptation de soi. Mais après, quand on a un besoin qui n'est pas satisfait, par exemple un besoin de créativité ou de retrouver du collectif dans notre quotidien, dans ces temps post-Covid un peu compliqués, je pense que, enfin, pour moi, il faut s'autoriser à faire ce qui va aller nourrir nos besoins. Moi, j'ai souvent été un peu considérée comme une girouette ou parce que j'avais beaucoup d'activités. Et effectivement, chaque activité me nourrit. Donc, je fais de la musique. J'aime pas du tout jouer toute seule. Moi, ce que j'aime, c'est jouer en orchestre. Donc là, actuellement, je suis impliquée et engagée dans deux orchestres, un orchestre symphonique et une comédie musicale caritative. Parce que ces projets, donc l'orchestre symphonique, c'est l'orchestre symphonique du lycée de mon fils. Donc je joue avec des jeunes, des jeunes entre collège et lycéens. Il y a quelques professeurs aussi, donc c'est chouette, ça me booste, ça me donne une énergie folle de voir ces enfants qui jouent super bien. Moi j'ai arrêté la musique pendant 20 ans, donc là je m'y remets, hein. Mais ça me nourrit vraiment. Et je suis aussi engagée dans un projet de comédie musicale caritative. Donc là, un projet qui est très moderne, parce qu'en fait, avec l'orchestre symphonique, on joue plutôt du classique, ce qu'on entend par classique. Là, avec la comédie musicale, on joue du Goldman. Donc c'est deux univers complètement différents. Et ça m'éclate, ça me nourrit d'être dans ces projets. Je suis aussi trésorière de plusieurs associations, donc une association musicale, et puis une association de coaching, accompagnement de la personne. J'ai choisi d'être à temps partiel pour mon entreprise, pour pouvoir justement avoir un peu de temps, un peu plus de temps pour moi, et pour pouvoir assouvir
toutes tes envies.
Toutes mes envies, et puis mon besoin aussi, oui. De me connecter aux gens de façon différente. La musique était importante pour moi.
Ouais, sans être dans le jugement, comme tu disais au tout début, de pas être dans une norme finalement, mais de faire ce qui toi te permet de t'épanouir.
Oui, ouais. C'est mon côté hypersensible ou ultra-sensible justement d'avoir besoin de ça.
Super, et bah, écoute, bah, merci beaucoup Laurence pour tous ces partages et puis ces conseils aussi. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypies du cerveau.